VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. On ouvre avec l'Algérie. Le scrutin devrait élire le successeur du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, massivement rejeté par le mouvement populaire de contestation du régime qui agite le pays. S'est ouvert officiellement ce matin. Deux centres de vote ont été déjà saccagés à Béjaïa, grande ville de la région algérienne frondeuse de Kabylie, dans le nord, par des opposants au scrutin présidentiel. Ces opposants, perçus par le mouvement de contestation qui agite l'Algérie depuis février comme une manœuvre du régime pour se régénérer, ont saccagé des urnes et détruit une partie des listes électorales, selon l'AFP. Ouverture samedi au Mali d'un dialogue politique. Ce dialogue national qui se veut inclusif va durer du 14 au 22 décembre. Il aura lieu dans un climat de pessimisme face à l'évolution de la situation sécuritaire au Mali et au Sahel. Il se tiendra sans les principaux opposants du président malien. Soumaïla Cissé, arrivé second à la présidentielle de 2018, a décliné l'invitation. Les anciens premiers ministres Modibo Sidibé et Cheikh Modibo Diarra, ancien candidat à la présidentielle, eux aussi, tournent également le dos. En accord avec son homologue nigérien, Mouhamadou Issoufou, le président français Emmanuel Macron a annoncé le report au début de l'année 2020 d'un sommet avec les dirigeants des cinq pays du Sahel initialement prévu le 16 décembre, précision de Michel Joseph.
Le président français devait réunir lundi prochain à Pau les dirigeants du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, alors que Paris réexamine les modalités de son intervention au Sahel après le décès de 13 soldats français dans une collision d'hélicoptère au Mali. Le sommet a été reporté en raison de l'attaque mardi contre un camp militaire au Niger, a annoncé l'Élysée. L'attaque de mardi contre un camp militaire au Niger, non loin de la frontière avec le Mali, a fait 71 morts parmi les soldats, l'attaque djihadiste la plus meurtrière dans le pays. M. Macron avait annoncé le 4 décembre qu'il avait convié les présidents sahéliens à cette réunion pour qu'ils clarifient leur position sur la présence militaire française au Sahel, de plus en plus contestée par leurs opinions publiques. Il avait souligné qu'il attendait d'eux qu'ils assument publiquement le fait que les soldats français sont au Sahel à la demande des pays concernés et non pas pour des visées néocoloniales. L'Élysée a précisé mercredi que toutes les options étaient sur la table, y compris un retrait des 4500 hommes des troupes françaises de la force Barkhane qui depuis 4 ans lutte contre les groupes djihadistes au Sahel.
La CPI a annoncé hier l'ouverture d'un procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés de deux ex-chefs de milices centrafricains, dont un ancien haut responsable du football africain, Irénée Amanouo.
Patrice Edouard Ngaïsonan, ancien ministre des Sports, et Alfred Yekatom, alias Rambo, sont accusés de crimes commis pendant la guerre civile entre 2013 et 2014 en Centrafrique. Les juges de la CPI ont confirmé partiellement les charges portées par la procureure Fatou Bensouda à l'encontre des deux hommes, renvoyant l'affaire en procès. Les magistrats ont estimé qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsonan sont responsables de crimes tels que le meurtre, le viol, la torture, le transfert forcé de population, la persécution et autres actes inhumains. Ils ont par contre refusé de confirmer les charges restantes qui, selon eux, ne sont pas étayées par des éléments de preuve sans donner plus de détails. Ngaïsonan, 52 ans, a été arrêté en France en décembre 2018 avant d'être transféré à La Haye. Il était le président de la Fédération centrafricaine de football. Yekatom, 44 ans, a été remis à la CPI en novembre 2018. Ce député aurait, selon la Cour, commandé environ 3000 combattants anti-Balaka.
Le fils de l'ancien président angolais, José Eduardo Santos, a dénoncé un règlement de compte politique et nié toute tentative de détournement de fonds mercredi, au troisième jour de son procès devant un tribunal de Luanda. Ex-patron du fonds d'investissement souverain angolais, M. Dos Santos, 41 ans, comparé avec 3 autres prévenus pour détournement de fonds publics et blanchiment. Au Gabon, l'attribution des marchés publics est au cœur de la lutte contre la corruption. Plusieurs projets d'investissement sont laissés à l'abandon à cause de contrats mal ficelés. La route nationale du Gabon en fait les frais. Sur les traces de ce tronçon de tous les dangers, le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nzé.
Nous sommes au kilomètre 80 de Libreville. La principale voie de sortie et d'entrée de la capitale gabonaise est parsemée d'embûches et non des moindres. Des bourbiers géants sont formés le long du trajet depuis le retour de la saison des pluies. Les colonnes de véhicules sont prises au piège. La colère gronde au sein des transporteurs et autres voyageurs.
On est coincé entre le 80 et Kango. Même vous voyez, pour que les véhicules sortent, il faut qu'un engin puisse les tirer.
2h du matin, je suis bloqué. Après, les Gabonais parlent qu'ils ont les routes chez eux. Hein, quelle honte! Quelle honte!
Vraiment?
Oh, il y a la route, il y a la route. Voilà, ça depuis 2h du matin. Je sais qu'il y a Yaoundé. Il y a le goudron là-bas, mais ici, là, il y a Bourbé.
Le gouvernement, dans une récente déclaration, a indiqué que la situation actuelle de la route nationale du Gabon est liée à l'abandon des chantiers par plusieurs sociétés dont les contrats ont été mal ficelés par les administrations, et d'ajouter que certains responsables ont été mis entre les mains de la justice. En attendant la lumière sur ces enquêtes anticorruption, c'est la désolation en zone rurale. Georges Boulengui, notable du village Ayémé, situé à une centaine de kilomètres de Libreville.
Dans la sous-région, le Gabon est le pays le plus riche. Mais malheureusement, quand nous regardons nos routes, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. On promet au ministre des Travaux publics de l'argent pour réhabiliter la voie. On prend cet argent, on envoie les enfants d'Europe, on fait n'importe quoi. Mais alors, le Gabon, comment voulez-vous que le Gabon puisse avancer? Le Gabon ne peut pas avancer dans de telles conditions.
Alors que le pays, toujours dépendant des importations alimentaires, redoute une pénurie sur les marchés, une mission du ministère de l'Équipement vient d'inspecter le tronçon de tous les dangers, annonçant des mesures urgentes. Flore Chantal Ngono, directrice générale adjointe de l'entretien routier.
Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de bloquer la circulation, surtout au niveau des grands porteurs, pour 2 jours. Nous avons aménagé une déviation qui permettra aux petits véhicules de contourner le bourbier et nous laisser vraiment la possibilité de travailler.
Pour compenser l'usure des routes, les autorités envisagent une redevance que devront payer les transporteurs de grumes, en partie responsables, selon elles, de ce désastre. Ismaël Obianzé, de retour du village Ayémé, pour VOA Afrique.
Au Botswana, le principal parti d'opposition, la Coalition pour un changement démocratique, UDC, a dénoncé de nombreuses irrégularités déposées fin novembre devant la justice, un recours en annulation du scrutin dans 16 des 57 circonscriptions. Le recours de l'UDC s'appuie notamment sur la déclaration sous serment d'un lanceur d'alerte issu du parti au pouvoir qui a expliqué par le menu comment il avait participé à une fraude organisée avec d'autres militants de confiance. La justice doit se prononcer dans les mois qui viennent sur la recevabilité ou non de sa requête en annulation. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, accueilli en héros dans son pays à son retour d'Oslo, a dit jeudi espérer rencontrer bientôt le président érythréen Isaias Afwerki dans le but de donner un nouvel élan au processus de rapprochement qui lui a valu le prix Nobel de la paix. Monsieur Abiy, 43 ans, s'est vu attribuer le Nobel pour la réconciliation qu'il a mené tambour battant avec l'Érythrée, mettant fin avec le président érythréen, Monsieur Afwerki, à 20 ans d'état de guerre entre ses deux voisins de la Corne d'Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce jeudi au Royaume-Uni pour des élections générales anticipées, cruciales pour la sortie du pays de l'Union européenne promise au 31 janvier par le premier ministre sortant Boris Johnson. Le leader conservateur espère obtenir une majorité nette pour mettre en œuvre l'accord de Brexit qu'il a négocié avec Bruxelles. Son adversaire travailliste Jeremy Corbyn promet quant à lui, en cas de victoire, un nouveau référendum sur le Brexit. En Israël, les élus ont adopté à l'unanimité dans la nuit de mercredi à jeudi une motion pour dissoudre le Parlement et fixer au 2 mars prochain les nouvelles élections. Selon un accord conclu en début de semaine entre les deux principaux partis politiques, le Likoud de Benjamin Netanyahou et le parti bleu-blanc de Benny Gantz, le nouveau scrutin aura lieu le 2 mars 2020. Et puis les États-Unis ont mis en garde mercredi la Corée du Nord contre tout nouvel essai nucléaire ou de missiles balistiques intercontinentaux en fin d'année, tout en promettant de la souplesse si les négociations reprennent. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous aurez avec vous Marie-Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.